fête commence.
Qu'est-ce que vous faites là?
Vous voulez assister à notre conversation?
Culture vive.
Il y a du feu, il y a de la terre, il y a la pluie et il y a le souffle de la parole.
À consommer sans modération.
Le monde et moi. Et moi dans le monde.
Parce que le rideau s'ouvre, les douleurs disparaissent.
Culture vive, Pascal Paradou.
Le petit doigt sur la couture et on marche au pas. Armistice oblige, la journée est consacrée aux souvenirs et aux défilés militaires, mais vous n'êtes pas obligé de succomber au charme de l'uniforme. Voici donc quelques dérivatifs pour le week-end. Un championnat de danse hip-hop, par exemple, c'est à Montpellier. Une rave électro à la Cité de la Musique à Paris. Ou alors, plus classiquement, un film, mais pas n'importe lequel, celui de Anne-Laure Kerr, commis d'office pour appréhender le dur métier d'avocat des pauvres. Anne-Laure Kerr sera notre invité, tout comme Laurent Hénard, qui est à l'origine de l'opération Tous à l'Opéra. A priori, c'est plus chic, mais je suis sûr qu'il va nous dire que l'opéra est un art populaire. À voir. Et puis, jouons l'exotisme et le voyage. Le téléphone sonne à
Bogota.
Bonjour Zoé Berry. Bogota, qui est devenue depuis quelques jours la capitale de la photo.
Oui, tout le printemps, les grands noms de la photographie seront exposés à Bogota. L'événement s'appelle Photographica Bogota, une biennale qui est organisée tous les deux ans. Les Bogotans vont pouvoir voir les photos de plasticiens et photographes, notamment français, parce que cette année, la France est invitée d'honneur. Des photographes de très grand renom, comme Sophie Kahl, Bettina Reims, Pierre et Gilles, ou encore Cécile Hartmann, et des photographes internationaux qui vivent en France. Il y aura aussi des photos d'une centaine de très grands du monde entier, américains, latino-américains, espagnols, britanniques, avec des photos de Tom Chambers, Mapplethorpe, Olaf Brüning, et le thème de la biennale, ce sont les portraits, labyrinthe du visage, paysage de la conscience, tout un sujet, avec 3000 portraits, une vingtaine de conférences, des rencontres, des projections de cinéma. Alors, la dernière biennale en 2007 avait accueilli 4,5 millions de personnes, c'est un très gros événement.
Donc c'est une exposition, une biennale ouverte absolument à tous et de très très haut niveau.
Oui, la Biennale de Bogota a une particularité, elle est conçue pour que tout le monde puisse y aller, parce que les photos ne sont pas seulement exposées dans des salles fermées, mais aussi dans les rues de la ville, sur les avenues. Il y a 72 expositions dans des galeries et plus de 1200 images qui seront accrochées sur les arrêts de bus, les kiosques, des panneaux mobiles disposés un peu partout dans la ville. Et c'est devenu une habitude à Bogota d'ailleurs, la fondation Photomuseo qui organise l'événement installe depuis bientôt 10 ans régulièrement des expositions temporaires en pleine rue ou dans les parcs de la capitale et les déplace dans différents quartiers, notamment les quartiers les plus populaires. Il y a au moins 5 expositions annuelles de ce genre avec beaucoup de succès. Les Bogotans aiment bien flâner, s'arrêter devant les panneaux, sur les trottoirs, même quand parfois c'est des photos très très conceptuelles, parfois même un peu difficiles d'accès pour un œil néophyte. La fondation organise aussi chaque année un grand concours de photos, le photo marathon, où pendant 48 heures, les amateurs et professionnels photographient la ville sous toutes ses coutures et les photos sont ensuite exposées dans les rues.
Alors pourquoi cette année la France, enfin les photographes français sont les invités d'honneur ?
Avant, il y a eu le Brésil en 2005, en 2007 c'était l'Espagne, la France cette année parce qu'elle a une tradition de grand portraitiste et parce que c'est le thème de cette année, aussi parce que la directrice de la fondation qui s'appelle Rilma Suarez et qui organise la Biennale connaît bien la France où elle a vécu pendant 7 ans. Déjà en 2003, sa fondation avait consacré une exposition à Paris intitulée Photo du paradis, c'est dire si elle aime la capitale française. Et puis, pour les Colombiens en général, la France est un symbole de culture et d'art. Ils parlent peu français, ils sont peu francophones, mais ils sont très francophiles. Ils aiment le cinéma français, la musique française, la musique électronique en particulier. Il y a tous les ans une grande fête de la musique à Bogota avec des artistes électroniques. Bref, la France n'a pas de mal à se faire une place dans la culture colombienne et avec le public colombien.
Merci Zoé Berry pour cette finalement très bonne nouvelle. Alex Goffer, voilà, de l'électro française. Alex Goffer revisitant Billie Holiday, The Child. Ce n'est pas encore de l'opéra, mais ça vient.
Le matin, on se stimule et le soir, on vous stupéfie. C'est comme ça.
Culture vive, Pascal Paradou.
Tous à l'opéra, cela résonne comme un mot d'ordre quasi insurrectionnel. Ce n'est qu'un événement assez consensuel, décidé en grande partie par Laurent Hénard, le président de la Réunion des Opéras de France. Bonjour Laurent Hénard.
Bonjour.
La Réunion des Opéras de France, c'est quoi? Ça fait un peu association chic.
Alors non, ça veut même être de plus en plus une association choc, parce qu'on est là pour défendre l'opéra, et que c'est pas forcément quelque chose de facile à défendre auprès des pouvoirs publics.
Pour quelle raison?
Parce que c'est compliqué d'expliquer pourquoi ça coûte ce prix-là. Hein. Faut faire court, vous avez, quand vous faites un opéra, autant de monde sur le plateau que pour un grand concert de variété. Hein, y a 120, 130 professionnels qui s'activent. Mais comme l'opéra, il n'y a pas de sonorisation, c'est la voix qui vous touche, vous êtes dans des salles de à peu près 1000, 1500 places. Donc ce que Johnny Hallyday amortit sur un stade de 35 000, ben vous devez le faire avec seulement 1000 spectateurs, dont tous d'ailleurs ne payent pas le prix de la place, parce qu'on a aussi une tarification sociale, on travaille avec les scolaires, on travaille avec les associations. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'un soutien public pour fonctionner.
Donc beaucoup de subventions.
Donc beaucoup de subventions, et le rôle de l'association, c'est d'expliquer ça au grand public et aux décideurs. On fédère 25 opéras et festivals en France, et on fait partie d'un réseau européen et international, Opéra Europa, pour l'Europe, qui travaille avec nous et qui organise d'ailleurs avec nous ces journées européennes, en fait, de l'opéra. Hein, Tous à l'opéra, c'est la déclinaison française d'un événement européen.
Alors, si on doit parler de prix et de sous, il faut rappeler que c'est un peu cher, l'opéra, malgré tout, mais c'est vrai, un peu moins cher que si on va à l'opéra à New York ou à Tokyo, par exemple.
Oui, en France, en France, en Europe même, hein, globalement. En Europe, globalement, en Europe continentale, mais en France, on est effectivement moins cher à la place. Quand vous regardez, en fait, les opéras ont essayé de faire des tarifs nombreux. Alors, c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver, mais ça vous garantit que tout le monde peut avoir accès en fonction de ses moyens. Moi, je vois, par exemple, à l'Opéra National de Lorraine, dans ma ville, à Nancy, vous avez des places d'opéra pour des étudiants ou des arrivants de dernière minute, hein, qui sont pas abonnés, qui décident d'y aller dans la demi-heure qui précède, qui coûtent moins cher qu'une place de cinéma.
Mais à l'Opéra de Paris, Gérard Mortier a fait des places à 5 euros. Bon, debout, c'est vrai, mais 5 euros.
Alors chez nous, elles sont assises.
Pas mal.
Ça, c'est la région, ça, si vous voulez. Alors, Paris, on est debout, en région, on est assis.
Tous à l'opéra, Laurent Hénard, vous présentez cette opération comme presque une opération de lobbying, mais c'est quand même aussi une opération de portes ouvertes à ces grands publics.
C'est pas une opération de lobbying, c'est une opération de pédagogie. Donc, Tous à l'opéra, on accueille près de 100 000 personnes, on espère, là, demain, le 9 mai. L'idée, c'est de dire aux gens, voilà, l'opéra, vous le connaissez dans votre ville. Hein, c'est généralement un lieu prestigieux, plutôt ancien.
Intimidant parfois.
On se dit qu'on n'a peut-être pas sa place dedans. Donc l'idée, c'est on ouvre les portes. On a des animations qui peuvent intéresser tout le monde. Karaoké lyrique, faire partie d'un chœur amateur, faire des quiz sur des airs populaires d'opéra. Voilà. Voir défiler tous les costumes qui ont pu être produits par l'atelier couture de la maison. Ça dépend des endroits, mais il y a toujours des initiatives pour le grand public, un peu comme dans des journées du patrimoine. Et l'idée, c'est qu'ils découvrent cette maison, qu'ils voient ce qui s'y passe, qu'ils voient aussi tous les gens qui y travaillent. Et ce qu'il faut assembler comme talent pour produire une œuvre qui finalement leur paraît facile, parce que l'opéra, on connaît tous des airs populaires. Et c'est donc une pédagogie déjà auprès du grand public, puis derrière on va faire une pédagogie auprès des décideurs pour expliquer pourquoi le lyrique en France mérite d'être soutenu. Alors ça concerne quand même beaucoup de Français, hein, juste un chiffre, on a près de 2 400 000 spectateurs chaque année qui fréquentent les opéras, les festivals lyriques en France, et à 90% ce ne sont pas des abonnés, et donc ce ne sont pas des habitués. De plus en plus, on a su s'ouvrir auprès de gens qui n'ont pas leur carte à l'année, si je puis dire.
Mais est-ce que cela veut dire qu'il y a un engouement de plus en plus grand des Français, du public qui vit en France, en tout cas, pour l'opéra?
Oui, quand même, dans une large part, les maisons sont pleines, il faut quand même le dire. Quoi.
Mais pleines de qui? Par exemple, j'étais récemment à l'Opéra de Paris.
Pleines de gens, déjà.
Beaucoup, oui, mais il y avait beaucoup d'Américains et beaucoup de Japonais.
Oui, mais ça c'est Bastille. Enfin, vous êtes sur Bastille, comme vous pouvez être à Covent Garden ou au Met, à New York. Enfin, je veux dire, vous êtes sur un opéra
international
qui est dans un réseau international lyrique. Mais les opéras en France, c'est près de 30 théâtres en région. qui ont choisi de proposer tous les ans dans leur saison du lyrique aux habitants. Et là, vous voyez des Françaises et des Français de tous milieux, avec ces 15 dernières années, un véritable effort qui a été fait pour rajeunir. Voilà, tous, on a fait beaucoup d'efforts pour travailler avec les écoles, travailler avec les associations, accueillir des gens qui n'y viendraient pas naturellement dans nos maisons. Et ça, je crois que c'est vraiment important, parce que ça, c'est la contrepartie de l'argent public, en revanche.
Vous pensez que ça peut être un genre, un art populaire, l'opéra ?
Honnêtement, je pense que ça l'est. Ça l'est au sens où on a tous des airs d'opéra en tête. Et par la télé, par les pubs, par les films, par les séries, de toute façon, ça rentre. Même si vous n'êtes pas allé dans une salle d'opéra, vous en connaissez. Et l'idée, c'est plutôt que tout ce que vous avez finalement par des bandes-son, vous l'ayez en vrai, quoi. Voilà. Dans un théâtre, dans les formes de l'art. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on réussisse. Je veux dire... Des airs de Nabucco, c'est beau, on en connaît tous. Des airs d'Aïda, c'est beau, on en connaît tous. On les a tous en bande son de plein de choses. Mais c'est encore plus beau quand on va s'asseoir dans un théâtre, qu'il y a la magie du lieu de spectacle qui opère et que la voix vous touche. Voilà, c'est ça qu'il faut offrir à tout le monde.
C'est vrai que ce sont souvent des très beaux lieux qui datent souvent du 19e siècle et particulièrement décorés. Vous chantez, Laurent Hénard ?
Je chante faux. Alors il m'arrive quand je suis un peu gai de chanter, mais généralement c'est signe d'un effet
divin. La nuit en principe, d'accord. Ouais. Tous à l'opéra, donc on va découvrir l'opéra côté coulisses dans les nombreuses salles françaises. Pour autant, on va pas beaucoup entendre de musique. Il n'y a pas a priori d'opéra prévu, annoncé, programmé pour ce week-end.
C'est aujourd'hui incompatible. C'est-à-dire que soit vous faites visiter le lieu. Et vous montrez tout. À la rigueur, les gens, ils peuvent fouiner partout, rencontrer tout le monde et interroger tout le monde. Ça veut dire que l'opéra, en fait, n'est pas en ordre de marche. C'est-à-dire que le personnel n'est pas en train de travailler à un spectacle. Ou alors, vous produisez un spectacle ce jour-là, et du coup, on peut pas tout visiter, on peut pas tout voir, on peut pas parler à tout le monde. Alors, par contre, ce qu'on va essayer de faire dans les années qui viennent, parce qu'on est conscient un peu de la difficulté, c'est d'avoir un ou deux opéras qui, ce jour-là, ont un spectacle, et avec lesquels on ferait une captation. Et donc on pourrait utiliser Internet pour des retransmissions, donc pour essayer de faire en sorte que deux ou trois opéras qui produisent ce soir-là un spectacle, en fait, puissent être diffusés dans l'ensemble du réseau. Donc on travaille sur ce sujet-là au sein de la Réunion des opéras de France, et on espère d'ailleurs trouver avec France Télévisions un partenariat qui permette de le faire, y compris sur le service public.
Donc ça, ce sera pour les éditions prochaines. Cette année, donc tous à l'opéra...
Pardon, mais il y a quand même des endroits où on peut assister à une générale, par exemple.
Ça, c'est pas mal.
À une répétition en public. C'est le cas, par exemple, pas loin de Nancy, à l'Opéra de Metz, il y aura une répétition en public. Donc, quand même, il y a des petits bouts de spectacle.
On entend quelques notes.
En pointillé, on y arrive.
Cette année, Robert Villasson est le parrain de cette troisième édition. Donc, c'est le ténor franco-mexicain, mais qui a eu un petit problème de corde vocale et il a déclaré forfait pour un an. C'est la tuile, non ?
Non, c'est pas la tuile du tout. Enfin, on a le problème avec chaque artiste. À un moment donné, on cherche toujours, quand il refuse de jouer une œuvre parce qu'il estime que sa voix a changé, la voix est quelque chose d'éminemment vivant, d'éminemment fragile, on lui dit, bah voilà, vous avez refusé de chanter ça, vous avez refusé de chanter ça, c'est pas bien, etc. Lui a eu, c'est vrai, un problème de santé, il l'assume. Mais je crois que le problème, c'est pas qu'il puisse chanter au moment où il parraine. L'essentiel, c'est son parcours. L'essentiel, c'est de trouver des vedettes, faut appeler un chat un chat, c'est-à-dire de montrer que l'opéra produit aussi des stars, c'est-à-dire des gens populaires, dont on a les CD, qu'on a envie d'aller écouter, et lui, c'est le cas. Villazone, c'est le cas, et qu'ils racontent leur histoire. Ce qui est intéressant, c'est quand ils racontent leur histoire, lui, il l'a fait en tant que parrain. Voilà, il raconte sa vie, son parcours, comment il est arrivé au chant, comment il s'est hissé à ce niveau international qu'il a atteint par amour de l'opéra. Et quand il raconte les choses, c'est très émouvant, et je crois que pour le public, ça veut dire que tout le monde peut y aller. C'est ce qu'on cherche avec nos parrains, avec notre marraine aussi, puisqu'on a une marraine pour la première édition, c'est de trouver des parcours d'artistes où chacun peut se retrouver.
Et où on puisse se dire, allons à l'opéra.
Voilà, exactement.
Merci Laurent Hénard. Tous à l'opéra, c'est donc ce week-end dans 28 opéras de France et 35 dans le monde. Merci. En France, l'année hip-hop est ponctuée de 4 grands rendez-vous de danse de compétition et ce samedi, le Zénith de Montpellier accueillera le prestigieux BOTY, The Battle of the Year. Mais la saison 2009 a commencé dimanche dernier à Paris. Oui, je sais que mon anglais n'est pas absolument orthodoxe, mais ça s'appelle la bataille de l'année. Je disais donc qu'à Paris a commencé ce dimanche dernier, le Hip-Hop International Championship. Oui, je sais que ça rigole derrière la vitre. En tout cas, Baïa Alouache y était.
Bonjour. Vous en faites à nous échauffer ?
Oui. Oui, elles se chauffent les doigts. Elles sont en train de faire des nattes. Et tout à l'heure, on s'est échauffé. Et nous sommes passés au casino de Paris pour essayer la scène, pour voir un peu comment ça se passait. Donc nous avons fait notre filage. Ça s'est bien passé, c'était rapide vu qu'il y a beaucoup de groupes.
Mais d'où alors ?
Nous, de Paris.
C'est quoi le nom de votre groupe ?
Neverland.
Vous allez nous proposer comme danse?
Danse hip-hop, en essayant de mélanger le plus de styles possible. C'est-à-dire lock, break, new style. Le lock est plutôt funky. C'est une danse ancienne, une des premières danses hip-hop. Énormément d'énergie, d'attitude, c'est le style funk à l'état pur. Après, nous avons le break dance et ensuite le hip-hop.
S'il vous plaît, écoutez les noms qu'on va vous donner.
Bonjour, je suis Jean-Pierre Chandler, donc producteur du hip-hop international avec Sabrina Boinic. Et puis on a tenté l'aventure, on est parti à Las Vegas l'année dernière. On a rencontré les producteurs pendant une semaine, on était immergés dans l'événement. On a discuté avec un monsieur qui s'appelle Ward Schwartz, qui est ni plus ni moins le producteur du MTV Best Dance Crew et du Hip-Hop World Championships. Et donc du coup on est revenu à la suite de notre dernier voyage cet été. Moi avec mon passé de danseur, Sabrina avec son passé d'organisatrice avec la licence. Et puis là on est jour J après les deux présélections du 8 mars et du 21. On a fait au nord et au sud.
Alors là aujourd'hui il y a combien de danseurs à peu près ?
Alors on compte 300 danseurs qui sont là pour la journée. Donc c'est un événement qui va se dérouler de 14h30 jusqu'à 22h. Entrecoupé avec des artistes de la scène hip-hop, Philemon, Eclectic Crew, Pete Bacarty, Jane Renard, enfin et bien d'autres. Et puis après, il y a les trois catégories de danseurs, donc les 8-12 ans, les 13-17 et les 18 et plus.
C'est Anneli, mon petit prénom. Je vérifie les dossiers, donc les fiches de session de droit, la bande-son. Et je vérifie aussi les dates de naissance pour savoir s'ils sont bien dans les bonnes catégories.
On va rentrer par les artistes.
Lynn. Enlevez-vous, essayez de partir en même temps. Allez,
on a coupé la France en deux. Pour le Nord, on a fait les présélections au Centre International de Jazz. Donc ça a regroupé en fait toutes les villes du Nord par le biais d'Internet, par le biais de toutes les ramifications qu'on a faites. On a fait une open list avec tous les groupes qui voulaient participer à ça, avec un gros casting de jury bien affûté pour sélectionner les meilleurs. Et pareil pour le Sud, ça s'est passé à Aix. Donc toutes les villes du Sud se sont ralliées à Aix pour faire les présélections et aujourd'hui, on en est là.
Ouais, faut baisser le micro du DJ, s'il vous plaît. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2, 13h54, on y va, en dessous. À peine quelques minutes de balance, ok, on essaie de faire tout simple et efficace. Ok, on y va, tac, on enchaîne. Ok, on fait ça.
Est-ce que tout le monde peut commencer à ouvrir le port, s'il vous plaît ?
Hip-hop international, très simple. Des milliards de crews qui se disputent depuis pas mal de temps, il en reste 40. Et les 40, vous allez voir là. Donc voilà, toujours pareil, on est là pour le hip-hop à chipper, à choper. Ça veut dire peace, love and unity, ok ?
Alors les vainqueurs, eux, auront l'opportunité d'être champion de France. Et donc ces champions de France qui vont représenter ni plus ni moins que la France vont partir à Las Vegas et vont défendre leur chance au championnat du monde.
Ça vient de la rue.
C'est pour de break, de jazz ou de cramp. Les meilleurs triples et les meilleurs dunks, ouais. Les vêtements que les jeunes se déchirent. Check du point au moment de partir. L'évolution de la langue française. Rider le skate avec un air à l'aise. Puis franchir mur, marcher parapé. 20 euros l'entrée, ça veut pas raquer. Élaborer des toiles de mains effacées. Superstar avec des fats lacés. Capuche fourrée, gousse matelassée. Peuple en rouge. Sur le drapeau français, chez le bal de fou de Ronaldinho, les icônes et les modèles de Mino.
Si vous êtes donc très hip-hop et un peu anglophile, direction Montpellier pour la Battle of the Year. Sinon, eh bien restez à l'écoute, vous saurez tout sur la justice grâce à Commis d'Office, le film d'Anne-Laure Kerr, qui est notre prochaine invitée. Culture Vive à